Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je voudrais achever l'exposé des preuves de l'existence de Dieu en vous montrant l'importance pratique et concrète de ces preuves. Tout repose là-dessus. Surtout, n'allez pas prendre les preuves de l'existence de Dieu pour qu'un exercice théorique réservé aux savants, ou bien comme prouvant quelque chose qui est évident, Dieu existe, il n'y avait pas besoin de le prouver. Non, vous rencontrerez à chaque pas, dans chaque situation, des affirmations qui sont directement opposées à la racine même des choses, c'est-à-dire à ce que nous avons démontré dans les preuves de l'existence de Dieu. Parce que, voyez-vous, la révolution moderne a tellement avancé que, après avoir détruit ou essayé de détruire les œuvres de Dieu, elle s'en prend à la notion même de Dieu, à ce qu'est Dieu. Voyez, par exemple, le laïcisme. On devrait plutôt dire l'athéisme. Qu'est-ce que le laïcisme? Sinon d'affirmer que le monde peut tourner sans Dieu, que les sociétés peuvent vivre sans Dieu, c'est-à-dire la négation du Créateur. Et pour arriver à s'opposer ainsi radicalement à ce qu'est Dieu et à le chasser de toutes les réalités, les modernes sont obligés de pervertir des notions fondamentales, de nier qu'il puisse exister une vérité, de confondre ce qui est avec ce qui n'est pas. Vous entendrez très souvent des affirmations « Oh, ça c'est ton opinion, mais d'autres peuvent en avoir une autre. » Sur des choses contingentes, oui, mais sur l'existence de Dieu, sur la nature de Dieu, non, il y a nécessairement une des deux opinions qui est fausse. Eh bien, mes bien chers frères, j'essayais de faire la liste de ce qu'est Dieu pour le monde moderne et quelles sont les affirmations les plus courantes que vous pouvez rencontrer. Je pense que la première affirmation que vous rencontrez, c'est celle du devenir. Je vous en ai déjà parlé dans les preuves de l'existence de Dieu. Je crois même avoir fait un sermon tout entier sur cette question lorsque je vous ai exposé la lutte entre les deux cités. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le progrès, le devenir, le changement est déifié. En tout cas, c'est ce qu'on trouve dans le texte Gaudium et Spes du Concile Vatican II, une admiration pour les progrès de l'homme. Vous trouvez cela, mes bien chers frères, dans l'évolutionnisme des espèces, qui est l'enseignement quasi universel aujourd'hui. Le singe descend de je sais pas quoi, l'homme descend du singe, et le lapin vient de la sardine. Si vous voulez répondre efficacement à quelqu'un qui croit à l'évolutionnisme, n'allez pas vous mettre sur le terrain scientifique. D'abord parce que si vous avez affaire à un docteur en sciences, vous aurez beaucoup de mal à ne pas vous ridiculiser à ses yeux. Et même si vous n'êtes pas ridicule et que vous sortez les bons arguments, vous aurez beaucoup de mal à dominer ces certitudes de docteur en sciences. Mais surtout parce que ce n'est pas le bon terrain. La réponse à l'évolutionnisme, aux doctrines évolutionnistes, même chez les scientifiques, ceux qui vous parlent de l'évolution des amibes, la réponse est philosophique et théologique. La réponse se trouve dans la première voie des preuves, la première preuve de l'existence de Dieu. Le plus ne sort pas du moins. Personne ne donne ce qu'il n'a pas. Vous vous rappelez que nous sommes montés jusque à celui qui est la source de tout mouvement, c'est-à-dire de tout changement, de tout progrès, en étant lui-même sans aucun changement. Parce que tant que vous expliquez le changement par le changement, vous n'avez rien expliqué. Et il faut donc, contre les évolutionnistes, affirmer les principes de l'existence de Dieu tels que la tradition de l'Église et saint Thomas d'Aquin nous les donne. C'est la même chose pour le progrès des sciences. Il n'y a pas que le progrès des espèces. On vous affirme aujourd'hui, régulièrement, les jeunes entendent cela en classe, le progrès des sciences. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on découvrira toujours plus, on finira par avoir le secret de l'origine du monde. Là encore, il faut répondre par les preuves de l'existence de Dieu. D'abord, la première, à savoir qu'il y a un Dieu parfait qui ne change pas, et qui permet qu'on entre petit à petit dans sa sagesse, et qu'on découvre des choses qu'il a faites lui-même, mais ces choses-là sont stables, elles sont limitées, elles sont finies. Et puis, vous pouvez répondre par la cinquième voie, il y a une intelligence qui a mis de l'ordre dans le monde par sa sagesse, et le vrai progrès n'est pas de découvrir des choses matérielles après des choses matérielles et des causes limitées après des causes limitées. Le vrai progrès, c'est de monter plus haut vers la sagesse de Dieu. Saint Augustin affirme « Savoir Dieu et ne rien savoir, c'est assez savoir. Tout savoir et ne pas savoir Dieu, c'est ne rien savoir. » C'est saint Augustin, il aime bien les balancements. Cela veut dire tout connaître, si on ne connaît pas Dieu, c'est ne rien connaître. Et connaître Dieu, c'est suffisamment connaître les choses, parce que en Dieu, on a toutes les connaissances suffisantes pour se sauver. La deuxième grande affirmation opposée à Dieu que vous entendrez, mes chers amis, mes bien chers frères, c'est la liberté. La liberté est une émancipation, et on a même des modernes qui, pour garder quand même une certaine idée de Dieu, mais ça c'est les modernistes, les catholiques modernistes, vont affirmer que Dieu est la source de toute liberté, non pas comme nous l'affirmons nous-mêmes, à savoir qu'il est la source de tout bien et que le bien guide notre liberté. Je vous ai fait un sermon déjà sur la liberté. Allez le revoir s'il est... Non, Dieu serait Dieu parce qu'il serait la liberté suprême, c'est-à-dire qu'il serait libre d'être libre. Là encore, il faut rappeler la quatrième voie de l'existence de Dieu, le bien souverain. On n'est pas libre indépendamment du bien. Quant à affirmer que Dieu aurait donné la liberté à l'homme en lui donnant le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, mais quel Dieu est-ce là qui offre aux hommes la possibilité du mal? Non, Dieu ne donne pas aux hommes à choisir entre le bien et le mal. Il donne le bien, le mieux, à se mouvoir dans le bien toujours plus haut, et il y a des hommes qui, hélas, refusent cela, se révoltent, et c'est cela le mal. Rappelez-vous également la cinquième preuve de l'existence de Dieu, une intelligence, une sagesse éternelle qui met de l'ordre dans le monde et qui met cet ordre par rapport à elle-même, par rapport à cette sagesse, c'est-à-dire par rapport à Dieu, par rapport à l'être infini et au bien infini. Il y a une erreur très courante que vous rencontrerez. C'est le Dieu étranger. Croyez en Dieu si vous voulez, cher monsieur, moi je n'en ai pas besoin. Là, on oublie toutes les voies à la fois. On oublie la deuxième, à savoir qu'il y a une cause à tous les effets. On oublie la troisième, à savoir que ce monde ne pourrait pas tourner s'il n'y avait pas un être nécessaire. La quatrième, à savoir que Rien dans ce monde ne peut s'expliquer sans les perfections divines. La cinquième, à savoir que l'ordre du monde est la fin de toute chose. Et je voudrais parler de Dieu demi-étranger pour beaucoup de catholiques, peut-être même pour beaucoup de traditionalistes, à savoir que Dieu est nécessaire, c'est pour la vie chrétienne, à savoir pour faire son salut, mais il y a énormément de choses sur terre pour lesquelles on ne fait pas référence à Dieu. Monseigneur Lefebvre nous mettait en garde contre cela. Il appelait cela le manque d'esprit de foi. Des chrétiens qui ont la foi, qui guident une certaine partie de leur vie par rapport à la foi, mais qui laissent toute une autre partie de la vie étrangère à la foi. Et puis vous avez le Dieu utile. C'est le Dieu de Napoléon. Il faut bien de la religion pour tenir les peuples. Il faut bien un Dieu pour avoir de la morale. Mais alors Dieu n'est pas au sommet. Et puis je terminerai par le romantisme. Je viens d'acheter un livre sur le père de famille, par un évêque d'aujourd'hui, qui se dit traditionnaliste. J'espérais y trouver quelques considérations intéressantes. Et effectivement, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est que pour cet évêque, le père est quelque chose de purement romantique. Lorsqu'il parle de son père, il parle d'héritage, mais sans préciser comment, de lien avec le passé, mais sans exprimer quel lien, de celui qui est une référence, mais sans expliquer quelle référence. On n'a pas les notions fortes qui sont dans l'Évangile et dans le catéchisme. La croix, les mystères du rosaire, les mystères joyeux, la pauvreté de la crèche. On n'a, à l'évidence, alors ça bien sûr, aucune idée de lutte, ni de péché originel, ni de vice originel, ni de blessure due au péché, ni de lutte entre les deux cités, ni évidemment de mondialisme, ni de crise dans l'Église, ni de pénétration du mondialisme dans l'Église moderniste. Un Dieu romantique, c'est un Dieu qui fait chaud au cœur, qui aide, qui donne quelque chose de plus, mais qui n'est pas le vrai Dieu. Deuxième partie de ce sermon, je ne voudrais pas rester sur des considérations négatives. Les fausses notions de Dieu, je voudrais d'une façon plus concrète vous dire alors qui est Dieu pour nous, pour les chrétiens. Il faut reprendre le principe et fondement de Saint Ignace de Loyola. Principe et fondement qu'il va faire mûrir tout au long de ses exercices et puis qui s'épanouissent comme une fleur magnifique avec la dernière contemplation pour obtenir l'amour de Dieu. Le principe et fondement. L'homme a été créé pour honorer, louer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme. Et par conséquent, toutes les choses qui sont sur la terre n'ont été créées que pour servir l'homme à honorer, à louer et à servir Dieu, pour l'aider. D'où il suit que nous devons user de ces choses dans la mesure où elles servent notre salut, en nous permettant de louer, d'honorer et de servir Dieu, et nous devons nous en détourner dans la mesure où elles ne servent pas notre salut. Nous en détourner et donc les mépriser. Et par conséquent, dit Saint Ignace, nous ne devons pas plus préférer une vie longue qu'une vie courte, une vie riche qu'une vie pauvre, une vie dans la santé plutôt que dans la maladie, et ainsi de suite. Parce que désirer une vie longue, riche, pleine de santé, c'est juger par rapport à la créature. Tandis que lorsqu'on juge par rapport au créateur et au service qu'on donne au créateur, on sait que le créateur choisit pour chacun la meilleure manière de le servir, un peu dans la richesse et beaucoup dans la pauvreté, un peu dans la prospérité et beaucoup dans l'adversité, et ainsi de suite. Les mystères joyeux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous méditons en ce moment, en cette période de Noël, nous montrent que le Christ a usé de la terre comme d'un escabeau mis sous ses pieds. Il ne s'y est pas attaché. Bien sûr, il a vécu au milieu des hommes, mais dans la pauvreté et non pas dans la richesse, dans la vie cachée et non pas en se montrant, au service de son Père, puisqu'il restera au temple pendant 3 jours pour être au service de son Père. Et cette méditation des mystères joyeux nous aidera à comprendre le mystère de la croix, les mystères douloureux, dans lesquels toutes les choses d'ici-bas sont ramenées, présentées à Dieu, elles lui sont offertes en sacrifice avec notre vie. « Père, je remets mon âme entre vos mains, dit notre Seigneur sur la croix, et si nous comprenons bien les choses, nous lisons avec lui, « Père, je remets mon âme, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai aimé, entre vos mains. » Et dans sa dernière contemplation pour obtenir l'amour de Dieu, que je vous ai très largement cité dans tous les sermons sur l'existence de Dieu, saint Ignace nous fait défiler devant les yeux toutes les preuves de l'existence de Dieu pour nous montrer tout ce que nous devons à Dieu, tout ce que Dieu est, comment ce que nous sommes est en rapport avec lui, comment notre vie est le fruit de son action, comment nos qualités ne sont qu'une participation à ses perfections, comment ce et combien ce que nous possédons est un don qui nous a été donné par lui. Et à chaque fois, il nous fait tirer la conséquence, et la conséquence, il nous aide à la formuler par cette très belle prière. « Prenez, Seigneur, ma liberté entière, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout cela, c'est vous qui me l'avez donné. Je vous le rends sans rien me réserver. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce. J'en serai assez riche et ne désire rien d'autre. » Celui qui ne fait pas cette prière devant l'enfant Jésus à la crèche aura beaucoup de mal à le suivre dans sa vie et à monter jusqu'au calvaire. Ne croyez pas que cette prière doit être faite seulement au calvaire. Elle doit être faite dès le début. Bien sûr, vous tous les jeunes qui m'écoutez et vous les parents des jeunes, bien sûr qu'un jeune de 14 ans est capable de comprendre ce langage philosophique et théologique de ce qu'est Dieu et de ce qu'est l'homme pour Dieu. Il est d'autant plus capable qu'il n'a pas encore été obnubilé, c'est-à-dire mis dans le brouillard par toutes les activités du monde, par toutes les choses du monde. Alors oui, assez facilement et assez spontanément, il est capable de prononcer cette prière. Oh certes, il n'en voit pas toute la profondeur, il faudra la vie pour l'approfondir. Mais justement, comment voulez-vous qu'un jeune approfondisse cette oblation qu'il doit faire à Dieu? Comment voulez-vous qu'il l'approfondisse s'il ne l'a pas d'abord faite une bonne fois? Et s'il ne la fait pas quand il est jeune, quand la fera-t-il? Quand il arrivera à la retraite? Mais alors, il verra la vie bien courte et il cherchera à rattraper le temps perdu pour jouir de la vie. Non, c'est dans l'entrée dans l'adolescence, j'irai même bien mieux, et c'est le jour de la première communion qu'un jeune doit faire cette prière profondément. Et à ce moment-là, le bon Dieu le guidera. Toute sa vie sera une progression dans cet apprentissage du service de Dieu. Et lorsque le moment sera venu de rejoindre le Seigneur, alors oui, cette prière aura enfin acquis tout son sens pour lui, et il la dira une dernière fois, « Je vous le rends sans rien me réserver, tout cela est à vous, c'est vous qui me l'avez donné, donnez-moi seulement votre amour et votre grâce, j'en serai assez riche et ne désire rien d'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »